Le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Rosalie Lafarge.
Pendant les vacances, pourquoi ne pas écouter la radio en famille ? Les aventures de Tintin se poursuivent sur France Culture toute cette semaine à 20h30 avec le Temple du Soleil.
Eh oui Rosalie, d'autant plus que c'est dans une super production quasiment hollywoodienne associant notre chaîne, la Comédie Française, Moulinsart et l'Orchestre National de France. Une réalisation signée Benjamin Habitant. C'est l'occasion d'évoquer un dernier opus dans la bibliothèque déjà imposante des études consacrées aux reporters du petit 20e, les géographies de Tintin, publiées à CNRS Éditions. Vincent Véchambre évoque dans les albums la présence des cartes, outils privilégiés du géographe. D'une manière générale, elles font partie du décor accroché au mur derrière un personnage représentant l'ordre policier ou militaire, dont elles apparaissent comme l'un des attributs de pouvoir. Elles jouent le rôle que Thierry Grunstein assigne aux icônes dans la bande dessinée, introduire une tension dans le récit séquentiel, comme dans l'exemple du tableau, icône fixe, isolée, alors que les cases sont solidaires et animées par leur succession, ce qui ouvre une zone de résistance à réduire ou contaminer par tous les moyens. Le meilleur exemple, c'est celui du portrait du chevalier de Haddock que son descendant finit par incarner en crevant la surface de la toile suite à un combat imaginaire et alcoolisé dans Le Secret de la licorne. Sinon, l'usage de la carte géographique pour se repérer dans l'espace est plutôt rare. C'est le cas de la première case, justement, du Temple du Soleil qui situe le Pérou dans le continent sud-américain et le port de Callao où Tintin et le capitaine viennent de débarquer à la recherche du professeur Tournesol, enlevé pour avoir été mêlé à l'expédition qui a profané la sépulture du roi Inca Raskar Capac et ramené sa momie.
Je pense en langue plou à cet incident et permettez-moi plutôt de vous offrir un verre de cet excellent pisco, la liqueur du pays que nous boirons à la santé de votre ami Tournesol.
Bien volontiers.
Et quelques minutes plus tard...
Ah, quel bonheur. Nous allons revoir ce bon vieux Tournesol. Ah, ce pisco. Ce pisco, c'est le plus beau jour de ma vie. Et puis tout va bien. Tout va très bien.
Voilà, le pisco dans la géographie alimentaire de Tintin et surtout du capitaine Haddock. Jean-Robert Pitt relève l'omniprésence des boissons alcoolisées, le whisky bien évidemment, à l'origine de nombreux débordements qui relancent l'intrigue au moment opportun. À cet égard, le sobre, voire abstinent Tintin est d'une indulgence constante, comme le montre l'épisode du Temple du Soleil, où le capitaine achève sur un rocher au bord d'un précipice une vertigineuse dégringolade dans les Andes due à un excès du breuvage. Commentaire résigné qui reflète le mélange de respect et d'affection que Tintin porte à son aîné. Il y a un dieu pour les amateurs de whisky. À part ça, les scènes de gueuleton sont rares, du fait sans doute de leur caractère statique dans des aventures au rythme d'action soutenu. Et le frugal Tintin mange peu, ses semelles de vent semblent suffire à son hyperactivité. Par contre, les scènes de tablés renversés, de vaisselle brisée sont fréquentes. Si un certain nombre de mets locaux typiques sont évoqués, c'est plus souvent dans les noms de personnages, Hippolyte Bergamote, l'américaniste des sept boules de cristal, le général Tapioca, Rodrigo Tortilla, Porfirio Bolero y Calamares, Kaviarovic, Walter Risotto ou le marquis di Gorgonzola.
Tonnerre de Brest, les bandits, ils massacrent Tintin. Il faut que j'aille l'aider.
Iconoclaste, pirate, encore quelques coups d'âme et vous apprendrez à me connaître. Bougre de marchand de guano.
Bougre de marchand de guano, les légendaires insultes du capitaine peuvent à l'occasion prendre une couleur locale. C'est un chapitre à part entière, assumé par Émeric Landau. Les injures géographiques, au top du palmarès, Mille Sabords, Tonnerre de Brest, qui dénotent leur contexte marin, ou Bachibouzouk, Bayadère de Carnaval, Kanak et Apache, plus connotés ethniquement et disons aussi géographiques pour arrondir les angles d'un racisme latent. Mais justement, la plupart des insultes sont axiologiquement neutres, histoire de les dévulgariser, souci constant d'un auteur s'adressant à un public protégé par la loi sur la littérature jeunesse. C'est ainsi que sonnent des injures aux consonnes et palatales trébuchantes, juste sonores et suggestives. Pantoufles, logarithmes, anacolutes, nyctalopes, catacrèses, toute une litanie de malédictions métaphoriques et hautes en couleur. Voilà, le Temple du Soleil à retrouver sur France Culture, le deuxième épisode ce soir à 20h30, sinon à retrouver sur le site et en podcast bien entendu.